Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une émission un peu différente de ce qu'on fait habituellement parce qu'aujourd'hui, on va vous parler du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Plus simplement connu sous le nom de TDAH, dans les pays anglo-saxons, on dit l'inverse, donc TDHA, ce qui fait qu'une fois sur deux, vous me verrez l'employer de la mauvaise façon.
On ne va pas parler de l'Iran ou du pétrole.
Non, parce que j'en ai marre. On fait que parler de l'Iran, du pétrole, des cours de bourse qui flambent. Et au bout d'un moment, on a l'habitude dans ces émissions de faire parfois des émissions de société. Et j'ai décidé... Pour tout vous dire, je suis allée à la librairie pour chercher des nouveaux bouquins de Mona Chollet, mais c'était pas possible. Alors, on va parler de ça parce que c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet sur lequel, encore à Noël... ma famille s'est mise à moitié sur la gueule parce qu'une partie de la famille disait que c'était lié à l'alimentation et l'autre disait que n'importe quoi, on racontait n'importe quoi. Donc j'aimerais qu'on aille au bout de ce sujet parce que j'entends aussi sur les réseaux à chaque fois qu'on en parle des choses fausses, des agrégats qui sont mal mis en place, des recoupements avec l'autisme aussi ou d'autres maladies telles que la schizophrénie ou la bipolarité qui ne sont pas du tout mis en place. Alors, vous allez me dire, bien évidemment, mais Emmanuel, tu n'es pas médecin, vous l'aurez remarqué, je suis avocat, c'est vrai. Mais je préfère le dire dès le début, je vais parler en tant que personne qui a été diagnostiquée à l'âge de 35 ans, donc quand même relativement tôt sur le marché français, puisqu'on devait être en 2004. Et j'y suis arrivée par mes lectures, par un livre du professeur Bellet. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, tiens, c'est drôle, je m'y retrouve. Donc à force d'avoir lu absolument tout ce qui était disponible, tout ce qui avait été disponible chez Odile Jacob, j'y suis arrivée en tâtonnant, ce qui m'a permis aussi d'être très en amont du fait d'avoir un de mes enfants qui a été diagnostiqué. Et ça va me permettre de vous donner aussi une vision peut-être plus personnelle de cela.
Et je crois aussi que, en ayant lu là-dessus un petit peu moi aussi et tout, si j'ose dire... Ça a l'air d'être un petit peu héréditaire, génétique, ou c'est ce que tu vas dire d'ailleurs. Et il y en a un petit paquet chez nous, non ?
Oui. Il y a,
si j'ose dire, ta fille et toi, vous n'êtes pas les seuls, quoi.
Non, d'abord, pour tout te dire, je pense que tu l'es.
Pas possible. En tout cas, quand j'ai montré des signes de cancritude
voilà.
Qui n'étaient pas normaux.
On va y revenir, mais il y a ça, il y a le fait aussi, il y a souvent des recoupements chez les... pas forcément, mais chez les TDAH, avec ce qu'on appelle les HPI, les hauts potentiels intellectuels, et aussi l'hypersensibilité. Et vous pouvez aussi être TDAH, avec ou sans hyperactivité, donc TDA, et sur le spectre de l'autisme. Donc vous pouvez être autiste TDA, vous pouvez être HPI TDA autiste, vous avez, ça recoupe aussi tous ces secteurs-là.
Et en principe, on n'aime pas le bruit, non ? On n'aime pas le bruit.
Oui, alors il y a ça. Alors bon, on en parle beaucoup et assez souvent de la mauvaise façon et très souvent on le relègue, tu sais, à l'enfant hyperactif. C'est avec l'enfant qui saute partout et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, l'enfant hyperactif est celui tout de suite qu'on va repérer dans une classe.
Moi, j'étais hyperactif.
Voilà. Et donc, ça a été classifié dans la Bible qui classifie les troubles mentaux, qui s'appelle le DSM. Et c'est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders dans la 5e édition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, surtout dans la littérature des réseaux sociaux, d'adultes qui en parlent. Tu vas voir désormais des stars, mais même quelqu'un comme Elon Musk va te dire, voilà, j'étais sur le spectre de l'autisme, j'étais sur le spectre du TDA. On a vu Florent Pagny en parler, on a vu pas mal de gens en parler. Alors... En réalité, ça touche aujourd'hui, on estime, 5% de la population, ce qui est beaucoup. Mais en même temps, je pense qu'on est encore potentiellement dans un sous-diagnostic parce qu'il y a des gens qui sont... Quand on dit 5%, c'est pas de « je me suis diagnostiqué tout seul avec des tests », c'est 5% de personnes qui ont été diagnostiquées en hôpital et qui ont fait le suivant le DSM.
Parce qu'on disait, quand j'ai lu des choses là-dessus, que c'était dans les tribus... Ceux qu'on mettait toujours au bord de la tribu parce qu'ils étaient très très en train de regarder trois trucs à la fois, et donc c'est eux qui prévenaient en premier qu'il y avait un ours qui arrivait.
Ils sont hyper attentifs, et la plupart du temps, tu vas voir chez les TDA, je vais utiliser le mot de TDA, la capacité, une hypersensibilité au bruit et absolument tous les stimuli extérieurs. Donc effectivement, ça va faire que tu vas entendre beaucoup plus et tu vas percevoir beaucoup plus. Donc effectivement, ça fait toi un très bon gardien si tu dois...
Là-bas.
En plus, tu as ce côté où justement tu as un problème à trouver le sommeil parce que la plupart du temps, tu as un cerveau hyperactif. Donc ça fait de toi une personne qui ne dort pas et qui entend tout. Donc ça fait toi un bon gardien.
Un très bon veilleur.
Donc qu'est-ce qu'on a dans les symptômes ? On a l'inattention. C'est un symptôme. Si aujourd'hui vous devez regarder votre enfant et que vous essayez de mettre le doigt là-dessus, une des premières choses que vous allez avoir, c'est l'inattention chez l'enfant.
Alors, est-ce que c'est la même chose que l'incapacité à se concentrer ?
Alors non, et c'est même le paradoxe, c'est que l'enfant va être inattentif, mais va avoir une hyperfocalisation très facile, l'enfant ou l'adulte. C'est-à-dire que si quelque chose te passionne, faire une montagne de cubes ou décider de faire un château de cartes, un puzzle, il peut y passer absolument 5 heures sans bouger, en oubliant de manger, même en oubliant de se laver, en oubliant absolument toute autre chose autour de lui.
Les garçons, c'est assez classique.
C'est assez classique d'oublier de se laver.
Ils sont pas pour ça qu'ils sont TDA.
Mais donc, ils ont cette capacité, les TDA, à rentrer avec cette hyperfocalisation, mais en revanche, ils vont avoir une concentration tous les jours extrêmement fragile. C'est-à-dire que c'est un enfant ou un jeune ou un adulte que tu vas mettre dans une salle d'attente et tout bruit extérieur va être un véritable chemin de croix parce que tout ça bloque ta concentration. Et si tu dois être dans une classe de 30 élèves avec un qui fait tomber sa règle, l'autre qui bouge son pied, l'autre qui gigote sur sa chaise et ainsi de suite, tu rends pour l'enfant TDA...
Professeur
qui parle sans arrêt. Et la double tâche d'écouter et de prendre des notes. Ce qui est, pour l'enfant TDA, une peine, parce qu'il ne peut pas faire les deux ensemble. Il a déjà, en plus, l'enfant TDA, souvent, va avoir une dyspraxie. Donc, il va être gauche. Pas tout le temps, encore une fois. Mais il peut avoir une dyscalculie, une dysorthographie. Ça veut dire que, dans la dysorthographie, il va avoir, souvent, c'est les enfants, on va dire, le cahier n'est pas bien tenu, il est sale par rapport au cahier de ses pairs, il va être sale. Il va avoir des difficultés dans l'apprentissage de l'écriture parce qu'il est un peu gauche. Et ça ne présage absolument de rien de ses capacités intellectuelles, encore une fois. C'est juste sa façon d'arriver à une maturité différente. Tu as l'incapacité, la plupart du temps, à retenir des ordres quand ils te sont donnés à l'oral, surtout s'il y en a plus de trois à la suite. C'est-à-dire, si les instructions te sont données, tu vas les oublier en route. Si on te donne trois consignes, ouvre la porte, mets tes chaussures, referme la porte derrière toi, il y en a un des trois qui va être oublié.
Pas les chaussures, je pense. Mais c'est intéressant parce que dans l'armée, où ils ont quand même beaucoup d'expérience, ils avaient... quand quelqu'un donnait un ordre à quelqu'un d'autre, il lui faisait toujours répéter. C'est peut-être une façon de traiter les TDA, parce que comme ça, ils se disent, ben, celui-là, il l'a répété, il s'en souviendra.
Effectivement, si tu le répètes, ça te permet de visualiser, quelque part, la tâche, et en le visualisant, en le répétant, tu as quand même une faculté de l'intégrer, tu vois, de te dire, parce que tu le visualises. Tu te dis, ok, mettre ses chaussures, je vois, ouvrir la porte, je vois, donc voilà. Et sans compter qu'on a tous un peu l'effet de seuil, c'est-à-dire il y a eu des tests qui ont été faits, on donne aux gens une boîte avec des choses dedans, ils savent exactement ce qu'il y a dans la boîte, puis on leur dit vous allez dans la pièce et vous revenez, et le simple fait de changer de pièce et passer sous un seuil, les gens oublient complètement ce qu'il y a dans la boîte. Il y a des tests comme ça, on est tous un peu comme ça. Alors aussi, on veut perdre ses affaires. Ça, je l'ai eu avec ma sœur, dont le fils a perdu 6 pullovers dans la même semaine.
Oui, moi d'ailleurs, quand je jouais beaucoup au tennis, je sortais du vestiaire avec mes affaires, et puis je revenais dans le vestiaire pour voir celle que j'avais oubliée.
Oui, voilà.
C'est parce que je savais que j'avais sûrement oublié ma chemise, des chaussures, la raquette, n'importe quoi. Donc,
mon petit frère, qui était TDA aussi, une fois il était au Louveteau, et ils étaient allés voir la cathédrale de Chartres. Et quand tu es Louveteau, tu as des petits bérets comme ça. Et il revient de Chartres, évidemment, sans son béret. Alors maman lui dit, mais où est-ce que tu as mis ton béret? Là. Il J'avais regardé, j'ai dit, tu vas pas me croire, on me l'a volé. Effectivement, personne ne te croit. La probabilité qu'on t'ait volé tomberait à la cathédrale de Chartres.
Est assez faible.
Est relativement faible. Voilà.
C'est vraiment un truc qui traîne dans les familles, quoi. Il y en a. Enfin, il y a, est-ce qu'il y a des familles ou est-ce qu'il y a dans chaque famille il y en a un ou est-ce qu'il y a des familles
alors,
il y en a plusieurs?
On va y revenir sur avec les cas de jumeaux homozygotes et monozygotes et ainsi de suite. Mais oui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les familles sans que les docteurs, sans que le corps médical n'arrive véritablement à mettre le doigt dessus. Mais on y reviendra un peu parce D'accord. que là je fais les grands symptômes. Donc on a vu dans les grands symptômes, tu as l'inattention, tu as l'hyperactivité. Ça c'est l'agitation motrice excessive. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais dans les pays du Nord, ils ont mis au point des petits des bureaux avec en dessous des choses qu'on fait du vélo.
Pédaler.
Oui. Parce que l'enfant va avoir ce besoin de bouger absolument tout le temps. Et tu avais ça aussi. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune. J'étais plus physique, j'avais plus besoin que les autres, encore que j'étais une fille, mais quand même. Et donc, j'étais l'élève à qui on disait toujours « Ah, vous, Emmanuel, qui avez de l'énergie, allez à l'Economa, chercher le cahier du jour. » Et j'étais celle qu'on envoyait à l'Economa, j'étais celle qu'on envoyait toujours chercher les choses.
Et
parce
tu n'oubliais pas de revenir ?
Non, je n'oubliais pas de revenir, mais j'avais besoin de sortir.
Mm-hmm. Oui, moi, je connais ça aussi.
Et les professeurs qui étaient pas complètement idiots repéraient tout à fait les élèves qui avaient besoin d'aller chercher la maîtresse
parce
à côté.
Parce que quand même, on n'a pas été fait, quand on courait derrière, on se faisait courir derrière par les lions et les panthères, on n'a pas été fait pour rester assis pendant 6 heures de suite sur des trucs à écouter quelqu'un parler dans une salle fermée, quoi. On n'est pas,
alors
n'est pas
ça,
fait pour ça.
Alors ça, c'est quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord en tant que maman. Je l'ai vécu et encore j'ai eu des filles. Je ne comprends pas pourquoi on laisse encore nos enfants dans ces écoles où on les envoie à 8h30 du matin.
C'est
où
des
ils sont
prisons.
Entassés à 30. Si j'avais eu des garçons, je me serais arracher les cheveux hauts et courts. Il reste jusqu'à 5h, 6h du soir. Moi, en plus, les filles avaient latin. Ça finissait jamais. Ils sont épuisés, ils sont entassés, ils ont chaud, ils sont pas bien, ils sont tout maigrichons après.
C'est que Agnan qui s'en sort.
Non, mais vraiment. Et tu les vois ensuite, ça nous fait des inspecteurs des finances qui sont comme des grands lacets, là. Et tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je vois mes neveux qui sont au Canada, ils sont quand même beaucoup mieux à avoir 6 heures de cours, à faire du sport l'après-midi. Je ne comprends pas qu'on ne permette pas aujourd'hui quelque chose de plus plein.
Il faut quand
plein.
Même des gars qui font des ponts, des routes, et qui sont des ingénieurs, ils en font aussi. Donc, je veux dire, c'est pas parce que tu maintiens les garçons, les filles, quand ils ont comme ça enfermés, que... Tu as une nation de crétins après, quoi.
Je pense que tu vois, on pourrait faire quelque chose comme la Suisse, où on part du principe que tout le monde n'a pas la capacité à passer sa capacité, justement. Donc, très vite, vers la troisième, on t'oriente vers des choses qui sont peut-être plus adaptées pour toi, chauffagiste, menuisier, et ainsi de suite, quitte ensuite à avoir des passerelles. Pour
revenir dans le système
si tu t'es raté, parce que toi, c'était pas à très peu de choses qu'on t'aurait envoyé faire de la menuiserie, ce qui me fait hurler de rire à chaque fois parce qu'il a deux mains gauches.
Oui.
Parce que à l'époque, tu étais un élève turbulent, tu étais probablement TDHA, puisque tu étais hyperactif. Et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant ne se sent pas en place? Eh ben, il commence à faire le saut, il commence à mal parler, il commence à chercher des noises à tout le monde. Et soit l'enfant rêveur, alors ça, c'est dans le meilleur des cas, soit l'enfant inattentif et qui va faire le boxon avec ses petits camarades.
Mais c'était pas inattentif, si vous étiez très curieux, c'est que j'essayais de faire bien, mais au bout de 5 minutes, j'imagine que j'oubliais que j'essayais de faire bien, j'étais ailleurs, quoi. Donc j'étais plutôt dans la catégorie...
Inattentif.
Inattentif, et donc je savais par exemple mon poème, et puis le lendemain matin, je n'en savais plus un mot, quoi. C'était absolument étonnant.
Ah, j'ai eu ça avec ma cadette, et c'était très déconcertant, parce que c'était une enfant qui voulait bien faire, et ça l'a mortifiée. Elle était mortifiée de pas comprendre pourquoi.
Et on ne comprend pas, parce que les autres, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème. Alors toi, tu es là, tu te dis pourquoi.
Oui, et ça donne l'impression d'une grande injustice.
Aujourd'hui, je me souviens des poèmes.
Oui.
Je veux dire que j'ai appris à l'époque.
Mais c'est... Oui, moi aussi, je peux te réciter toute la légende des siècles de Victor Hugo. Et
c'est beaucoup, hein.
Oui, je la récite pas en entier quand je la récite. ce que je voulais dire, c'est que ça donne un grand sentiment d'injustice à l'enfant qui se sent meurtri.
D'injustice et d'incapacité. Il se dit, je suis quand même pas doué, quoi. Pourquoi j'ai que des bananes alors que c'est toi. Donc tu comprends pas pourquoi tu y arrives pas, quoi. C'est ça le. Alors que. Donc c'est vraiment une souffrance.
Oui. Oui, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que je veux en parler dans la mesure où je l'ai vécu, donc je peux donner quand même mon impression, et je l'ai vécu en tant que maman d'eux, ce qui me donne toujours envie de dire surtout, allez consulter dès que vous avez cette impression, parce que l'enfant est en souffrance, et vous ne savez pas combien c'est lourd à porter, et combien en réalité... ça va changer sa vie, on va en parler plus tard.
Et surtout qu'il peut rater, à un moment d'adolescence, il peut la rater, donc il va se retrouver toute sa vie dans une position où sa vie est ratée, quoi. Il n'a pas réussi à passer un certain nombre d'étapes. Et donc c'est très injuste.
Alors attends, donc il y avait l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. L'impulsivité, c'est un des trois autres critères. Ça veut dire à l'école interrompre, répondre prématurément et surtout décider sans réfléchir. Alors dans ces trois, dans l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité, tu peux avoir des TDA à prédominance inattentive, tu peux en avoir à prédominance hyperactive et impulsive et tu peux avoir des formes combinées. Donc en réalité c'est toujours pareil, il n'y a pas une forme pure. Quelquefois effectivement tu vois l'enfant qui est hyperactif en classe va être repéré beaucoup plus vite que la petite fille qui est inattentive et qui est dans un coin.
Oui.
Les femmes sont diagnostiquées beaucoup plus tard, en général à partir de 30 ans, 35 ans et encore à notre époque, inutile de dire qu'à la mienne, c'était pas du tout le cas. Moi, j'ai eu juste la chance d'être... Parce que je me suis autodiagnostiquée, que j'ai compris qu'à force de tirer des bouts de ficelle, j'y suis arrivée. Mais c'était très en amont. Il y avait un médecin, le professeur Bellet, qui faisait ça à l'époque à l'hôpital Sainte-Anne et qui faisait le TDA et qui encore le fait chez l'adulte. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre. Mais non, le TDA ne s'arrête pas à l'âge de 18 ans, comme par magie. Évidemment que c'est quelque chose qui va rester tout au long de la vie.
Une caractéristique de la vie.
Oui.
Donc, ça veut dire que... Si tu es TDA, ça veut dire que, tu as peut-être des problèmes enfants, etc., mais dans ta vie ensuite, il faudra que tu trouves une façon de mettre à profit tes qualités sans être... c'est-à-dire quelque chose qui est très contraint, un système très contraint, ça va pas t'aller, quoi.
Voilà, alors ça c'est très intéressant parce que de plus en plus de nos jours, vous pouvez avoir des personnes qui vous orientent dans votre vie professionnelle. Mmh. Et si vous savez que vous avez un enfant qui est comme ça ou que vous l'êtes vous-même, il est plus intelligent de s'orienter vers des métiers où vous ne serez pas à l'intérieur d'un tableur Excel qui va redoutablement vous ennuyer. En revanche, par exemple, on a remarqué que les TDA excellaient dans des métiers qui changeaient tous les jours, par exemple médecin urgentiste. Dans une certaine forme d'action qui demande d'être sur ses pieds, d'être extrêmement réactif et qui a un changement tous les jours, les TDA excellent parce que ce sont des gens qui ont appris à en travailler en grande tension, étant eux-mêmes en tension permanente. Et donc la nouveauté et quelque part l'excitation aussi, l'adrénaline, les métiers d'adrénaline fonctionnent très bien. Donc pompier par exemple répondrait très bien à cette demande aussi. Et il y a plein d'entrepreneurs, évidemment, on y pense tout de suite. Alors, il va y avoir la contrainte des obligations comptables et ainsi de suite. Si vous savez bien vous entourer, vous pourrez avoir le meilleur des deux mondes. Mais effectivement, on retrouve une grande partie d'hyperactifs.
Est-ce que les entrepreneurs sont naturellement TDA, tu crois ?
Je pense, non, mais en tout cas, si vous êtes TDA, vous retrouvez... moi, je pense que aussi chez les libertariens, il y a beaucoup de TDA hyperactifs ou non. C'est-à-dire souvent, le profil un peu anard qu'on peut trouver chez les libertariens naît du fait d'avoir compris qu'ils n'étaient pas en adéquation totale avec une certaine société actuelle, parce qu'en fait, c'est des John Galt. Et pour moi, John Galt, c'est un gros TDA.
Oui. Alors il faut
c'est
le dire,
c'est
dans.
Très
il faut expliquer qui est John Galt.
Oui, John Galt, pardon, c'est le personnage de ce roman de Ayn Rand qui s'appelle Atlas Shrugged, la grève en français, et qui, au bout d'un moment, en a marre de cette société où des petits hommes gris font fonctionner le système de manière horrible et disent c'est nous qui sommes les véritables créateurs de valeur, et comme on en a marre, on fait sécession et on va tous se planquer dans la montagne et vous aurez qu'à vous débrouiller tous avec votre régime de Cuba et ça sera bien fait pour vous. Et voilà. Et donc,
c'est un très bon bouquin.
Alors, on peut se demander, au travers du temps, d'où est venu le TDA, parce que c'est toujours pareil. On se demande toujours, avec les... On peut se poser la question de la peste, on peut se poser la question de toutes les maladies, encore que ce ne soit pas une maladie, c'est une différence. C'est une neurodivergence. On a commencé à voir l'apparition de recensement de cette neurodivergence vers 1897 et des conférences... au Collège Royal de Médecine de Londres. Et on appelait ça le défaut moral de contrôle en 1902, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas méchants, qui essayaient de faire bien et qui avaient un défaut biologique dans le fait de pouvoir délivrer l'action, de vraiment faire ce que... Et alors ils disaient, on comprend pas véritablement pourquoi, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis au fur et à mesure, la science s'est attelée, on s'est rendu compte avec des scanners, avec des prises de sang, des facteurs neurologiques. Alors pour les facteurs neurologiques, il y a 4 neurotransmetteurs pour nous, les humains. La sérotonine, qui est un antidépresseur naturel qui vous met de bonne humeur ou pas. L'oxytocine, ça c'est ce que vous avez quand vous êtes amoureux, quand vous venez d'accoucher, quand vous voyez des bébés chats. Ça c'est l'hormone de l'attachement. Vous avez l'endorphine qui agit contre l'angoisse, le stress, la dépression, la douleur. Et la dopamine qui booste votre motivation. Et en réalité, dans le cas du TDAH, c'est la dopamine qui est impliquée. Ça, on le voit très facilement quand on fait un scan. C'est un problème de cortex frontal. C'est une trahison de la dopamine. La dopamine ne fait pas son boulot. Elle est pas active.
C'est embêtant, cette histoire de dopamine, parce que c'est... C'est aussi très important dans toutes ces dépressions avec la sérotonine et tout. C'est ce qui vous permet d'absorber les chocs. Donc un manque de dopamine, ben, par exemple, quand vous avez ce genre de problème, vous avez la maladie de Parkinson qui peut venir, c'est un problème, c'est un trouble de la dopamine. Donc la dopamine, moi, c'est curieux parce que j'ai lu des articles qui disaient que, vous savez qu'il m'arrive de fumer des cigares, et que la nicotine était un très profond stimulant de la dopamine et la sérotonine. Donc il est possible que les gens qui fument soient des gens qui aient des problèmes de dopamine ou de sérotonine et qui essayent de compenser ça. Et c'est pour ça que, par exemple, les fumeurs, en particulier de cigares, ils n'avaient pas le Covid parce que ça bloque tous les virus, la sérotonine et la dopamine. Enfin, la nicotine, pardon. Donc, il y a des trucs... Plus je lis les trucs sur le cerveau, plus je me dis que, dans le fond, c'est très compliqué. Hein.
C'est extrêmement compliqué. On tâtonne. Ça, le TDA, c'est une maladie. Regarde, on commence à s'y atteler à peine depuis les années 60-70. Donc, on tâtonne encore de sorte qu'il y a des choses qui sont encore mal comprises.
Est-ce qu'il y a un rapport entre le TDA et la créativité ?
Alors attends, ça on va y venir encore, mais tu parlais tout à l'heure du gène de TDA. Et alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que tu vois que si tu prends des jumeaux monozygotes, un a le TDA, tu as 80% de chance que l'autre jumeau monozygote ait un TDA.
Parce qu'en principe, c'est le même individu.
Oui, mais ça veut dire que c'est quand même énorme. Que si tu prends des jumeaux qui ne sont pas monozygotes, qui sont hétérozygotes, je sais.
Hétérozygotes.
Oui. Là, ça tombe à 30%.
Si un Z, c'est que c'est grec.
Donc, en réalité, on retrouve une immense relativité, enfin je veux dire génétique, sans qu'on arrive véritablement à mettre le nom sur ce gène pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le trouver, mais en attendant, on ne peut pas dire, tu vois, par exemple, on a le gène des roues, on sait comment il s'appelle, le gène de perdre ses cheveux, on sait comment il s'appelle, le gène, voilà. Ce gène-là, entre guillemets, on ne l'a pas, mais on retrouve des corrélations qui laissent à dire quand même dans cette famille. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et tu l'as peut-être lu aussi, qu'on retrouve encore une fois des corrélations sans qu'on puisse véritablement les comprendre, c'est que des familles à très haut potentiel intellectuel avaient des enfants beaucoup plus qui pouvaient se retrouver sur le spectre autistique.
Oui, ça, je l'ai suivi, ça, oui.
Et aussi sur le spectre du TDA. Par ailleurs, il y a un lien aussi ténu qu'on ne comprend pas forcément bien entre le spectre autistique et le TDA. C'est-à-dire, il n'est pas rare d'avoir des enfants TDA à haut potentiel, qui vont aussi être un peu sur le spectre. Et beaucoup de TDA vont être aussi sur le spectre.
Est-ce que les garçons, c'est plus que les filles ?
Pas forcément, non. C'est juste que les garçons sont beaucoup plus diagnostiqués, donc on en a plus, parce que les filles sont sous-diagnostiquées. Pourquoi ? Parce que la petite fille, très tôt, va apprendre à mimer, va apprendre pour rentrer dans le groupe social à faire semblant d'eux.
Elle veut être acceptée.
Elle veut être partie du groupe. Donc, on retrouve des femmes qui vont être en burn-out absolument total, en général à l'âge de 40 ans, parce que depuis l'âge de 8 ans, elles ont appris à faire semblant, elles ont appris à ne pas laisser sortir, elles ont appris à compenser. Arrive le poids de la famille, le poids des charges et ainsi de suite, qui devient une charge mentale encore plus lourde parce qu'elles n'ont pas cette capacité d'organisation naturelle. Et tout retombe sur elles dans la plupart du temps dans la société, parce que telle est voilà, avec la famille. Et c'est encore plus dur pour la petite fille TDA qui n'a pas été diagnostiquée, qui ne comprend pas pourquoi ça lui est aussi difficile. Et la petite fille ne va pas être diagnostiquée en général parce qu'elle n'est pas hyperactive. De plus en plus, on va se dire, elle est gentille, elle n'écoute pas à l'école, mais c'est pas grave, elle est douce, voilà. Et donc, on passe complètement à côté de plein de petites filles. Et on est passé au travers de plein de petites filles. Et quelquefois, des femmes y retournent, c'est arrivé à pas mal de mes amis, parce que leur enfant a été diagnostiqué, et du coup, ils se disent, ah, mais dis donc, moi aussi j'étais comme ça.
Oui.
Et ils refont le
donc,
match.
Donc, ça peut être héréditaire.
Ah, c'est complètement héréditaire.
Ah bon. C'est-à-dire qu'il y a des familles où ça passe de père en fils ou de mère en fille, quoi.
Et on ne comprend pas très bien pourquoi. Après, tu as des facteurs aggravants. Tu as par exemple l'exposition prénatale au tabac, l'exposition prénatale à l'alcool. Bon, de toute façon, on sait qu'il ne faut pas le faire. Mm-hmm. Le stress de la mère, avec l'augmentation du cortisol, peut avoir une incidence très forte sur le TDA. Donc, bon, ça encore
c'est-à-dire
une fois...
C'est-à-dire si la mère est malheureuse, les enfants le sentent.
Oui.
Ça, je veux bien le croire.
Mais de toute façon, il y a eu plein d'études sur ça, sur les femmes qui n'ont pas pu manger dans les premiers trimestres de grossesse, et ainsi de suite, la façon dont le fœtus surcompense. Ensuite, par la suite, ça donne des enfants qui
pour qu'à bouffer.
Oui.
Ton chien a eu des problèmes. La mère de ton chien a eu des problèmes, ouais.
Les naissances prématurées et les naissances difficiles, c'est-à-dire des naissances difficiles avec forceps, bébé qui a du mal à... Voilà. Alors par contre, il y a des fausses croyances sur lesquelles il faut revenir. Ça n'est pas lié à un trouble affectif. Ça ne se résorbe pas avec le temps. Ça n'est pas l'attirance pour les écrans qui crée le TDA. C'est le TDA qui fait qu'on est attiré par les écrans. Parce que, surtout de nos jours...
Ça bouge tout le temps.
Non, mais les réseaux sociaux sont des magnète à dopamine. Donc le réseau social t'envoie de la dopamine. Qu'est-ce qui se passe ? Toi, t'es un junkie de la dopamine en tant que TDA, t'en as besoin. Mmh. Donc évidemment que n'importe quel réseau qui t'envoie du rage bait, qui t'envoie des choses, ça te fait des flashs de dopamine.
Parce que les grands sportifs sont TDA, parce que ça leur, là, ils en prennent de la dopamine, la compétition, tout ça.
Eh bien, Michael Phelps... était TDA et sa mère s'en est rendue compte très tôt et donc
qui était le plus grand nageur de l'histoire.
Voilà. et a mis toute cette discipline autour de lui pour justement lui permettre d'avoir cette capacité. C'est quelque chose qu'il faut dire dans la gestion, on va y revenir, mais du TDA, c'est que il y a des moyens de l'entourer, il y a des moyens évidemment des médicaments, on va y revenir, mais il y a aussi des moyens en cognitif, en accompagnement pour la famille et en gestion de tous les jours pour essayer de... Déjà, une fois, 80% du chemin, c'est comprendre ce qu'on est, en rigoler, parce que je pense qu'il faut un peu aussi dédramatiser. C'est pas une maladie, c'est juste une façon différente d'être. Et quelque part, le vivre, si on doit le vivre en famille, parce que c'est y a pas de honte et c'est plutôt rigolo. Moi, je sais qu'avec ma fille, on en rigole tous les jours. Et je l'ai encore envoyé un SMS en disant, parce que c'était un truc sur le TDA, qui disait, quand t'es TDA, tu penses toujours que le moindre email que tu vas recevoir, ça va être quelqu'un qui est en colère pour t'engueuler. Et moi, j'ai toujours ça. J'ai toujours l'impression, quand je reçois un email, que je vais me faire engueuler. Quoi.
C'est... Moi, l'email, c'est pas tellement ça. Ah non, je pense pas à ça, mais par contre, quand je reçois un courrier officiel de la République française ou de ma banque, je me mets à transpirer, je te dis pas, j'ai une trouille.
Alors qu'en général, c'est juste pour te dire qu'ils ont relevé 2,3 du livre.
Bref.
Alors, pour ce qui est du diagnostic.
Est-ce que le TDA a des peurs irraisonnées?
Oui, attends, on va y revenir. Donc, juste là, si on fait sur le diagnostic, donc c'est pas une maladie. On rappelle que seul le médecin peut poser un diagnostic et c'est assez difficile de le diagnostiquer chez l'adulte, mais il y a des diagnostics différentiels qui permettent de venir autour. Le problème qu'on a avec le TDA, donc attends, les tests utilisés, tu as un test qui s'appelle l'Adult ADHD Self Report Scale, s'appelle ASRS. Il y a le Corners Adult ADHD Scale, ça s'appelle le CARS, et le Wonder Utah Rationality Scale, mais tu ne dois pas faire le test avant, enfin, on ne peut pas faire de test vraiment avant les 6 ans de l'enfant. Moi, je l'ai fait à partir des 8 ans, en milieu hospitalier, et ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, c'est au moins un an, le protocole, entre le moment où on débute et le moment où on finit d'avoir un diagnostic. Donc, dès que vous avez l'impression que l'enfant montre des signes vraiment de dyscalculie, de dysorthographie, il y a d'autres choses aussi qu'on peut repérer chez l'enfant. Moi, j'ai eu ça chez ma fille à partir de 2 ans. Le refus de certaines consistances qui est de nourriture. Ça, c'est très fort chez certains TDA. Le refus de matière à la langue. Le refus, pendant très longtemps, elle voulait manger que des pâtes, des penées, sans rien dessus, sans aucune couleur. En fait, tout ce qui passait par la bouche, la consistance lui était insupportable. Et aussi les matières de vêtements, les petites étiquettes derrière, les choses qui grattent. Le TDA va avoir la plupart du temps une sensibilité accrue aux matières, aux choses qu'il touche, à peu près à tout son univers. C'est aussi une hypersensibilité. Alors, ça peut être génial parce que ça peut être une hypersensibilité qui va donner une créativité, qui va te permettre de comprendre les poèmes beaucoup mieux, la littérature, la musique, beaucoup, beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est aussi un écorché vif, potentiellement. C'est-à-dire que les choses autour de lui... Les remarques qu'on peut lui faire, toutes les choses de la vie vont lui être infiniment plus denses. J'ai toujours cette image, peut-être que Andersen était TDA, mais quand la petite sirène revient sur Terre, on lui dit que l'échange, ça va être qu'à chaque fois qu'elle marchera avec ses jambes, c'est comme si elle marchait avec un poignard, chaque pas. Et quelquefois, le TDA, ça peut être un peu ça. Tu vis au milieu de gens pour qui marcher est normal, et toi, chaque pas sera un poignard. Parce que c'est... Voilà. Alors aussi, grand souci, c'est souvent mal diagnostiqué. D'où aussi un problème. Les médecins ne comprenaient pas, donc on te disait « Ah, mais vous êtes en dépression ». Alors, on t'envoyait, on te bourrait de médicaments contre la dépression, mais c'est un problème de dopamine, c'est pas un problème.
C'est un problème de dopamine, absolument.
C'est pas un problème de sérotonine, donc on peut te bourrer de...
Pour la sérotonine, c'est un
problème. Ça fera pas grand-chose. On disait aussi que c'était de la bipolarité ou de la schizophrénie, parce que aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le TDA, en tout cas le TDA-CHA, très souvent, va avoir besoin, pour aller chercher sa dopamine, de se mettre dans des comportements dangereux.
Oui.
Donc ça va être des gens, tu sais, je pense beaucoup à notre arrière-grand-mère qui jouait beaucoup au baccarat et ainsi de suite.
Ben, elle ruinait la famille, mais parce que ça lui faisait, elle lui faisait des shots de dopamine. Oui.
Voilà. Des shots de dopamine comme ça, faire de la voiture, conduire très très vite, la prise de risque, toute prise de risque. Ça peut être aussi un comportement sexuel très 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 fort parce que on a besoin d'aller chercher cette dopamine. Donc tout ce qui vous donne, encore une fois, les courses à moto, tout ce qui génère de la dopamine dans la vie, sortir, boire, faire des choses à.
Est-ce qu'il y a un rapport avec les gens qui se droguent?
À la fin, c'est le risque pour un TDA non soigné.
Je sais pas si tu prends de la marijuana ou des trucs comme ça. Est-ce que ça Non, je sais pas si ça. Je sais pas l'impact des drogues sur la dopamine, mais enfin.
Je pense que je m'y connais pas trop, mais je pense que si une drogue ressemble plus à dopamine, ça devrait plus être la cocaïne que la marijuana, qui a plutôt tendance à te calmer. En revanche, tu vas peut-être partir aussi sur ça dans la mesure où ça va calmer. De toute façon, tes ressentis et ton besoin de t'étouffer. Je pense que quand tu as des gens comme Baudelaire ou des gens comme ça qui sont allés chercher dans l'absinthe des remèdes, de toute façon, au travers de l'histoire...
C'était plutôt Verlaine, non ?
Verlaine, enfin, de toute façon, toutes ces générations-là, tu peux y aller aussi sur... comment il s'appelait
Rimbaud, oui.
Enfin, ils se sont tous plus ou moins flingués.
Mais Rimbaud, il est devenu trafiquant d'armes en Afrique, donc là aussi, il avait de la dopamine, j'imagine.
Mais les comportements déviants, très souvent, chez le TDA, sont le fait de cette recherche de dopamine qui n'a pas été, traitée et qu'on a du mal, à traiter aujourd'hui. Mais bon. Alors, c'est assez drôle la façon dont on est arrivé au médicament, qui est aujourd'hui le ménithalfate, c'est-à-dire la ritaline et ses dérivés. C'est une histoire un petit peu de, tu sais, ce qu'on appelle de sérendipité médicale. Un petit peu comme on a eu avec le Viagra. Le Viagra, au début,
On donnait ça à des pauvres gars dans le lit d'hôpital, et puis après ça, ils s'intéressaient beaucoup aux infirmières. Alors...
Voilà, c'est ça. Au début, c'était pour des angines de poitrine.
Oui.
Et on leur a filé ça, les mecs disaient, alors ça fait rien du tout pour l'angine de poitrine, par contre, je bande comme un taureau pendant toute la journée. Voilà, c'est ça qu'on appelle la sérendipité médicale. Et alors,
Un truc par hasard.
Et c'est ce qui s'est passé en 1930, c'est-à-dire qu'au début, ils ont commencé avec des amphétamines qui donnaient aux enfants qui avaient des très très forts maux de tête. Et donc on leur a donné ça, et on s'est rendu compte que dans les années 50-60, ça soignait pas du tout les maux de tête, mais par contre, les enfants qui étaient très chahuteurs arrêtaient de chahuter. Alors on s'est dit, tiens, c'est bizarre, mais c'était quand même pas mal. Et donc ils ont continué dans les années 60 avec une nouvelle molécule qui était donc le méthylphénidate, et qui agit en bloquant la recapture donc, de deux neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline. Et grâce à ça, on a une explosion à ce moment-là aux États-Unis. Et puis en France, c'est arrivé assez tard, c'est arrivé en 95 et jusqu'en 2021, c'était donné qu'en milieu hospitalier. Donc moi, je sais qu'avec ma fille, on devait aller à Robert Debré, on devait faire tout un protocole. Maintenant, je crois qu'en première intention, tu dois l'avoir à l'hôpital, mais tu peux l'avoir par un médecin de ville aussi qui peut te le donner, ce qui était quand même beaucoup plus pratique. Parce que c'était quand même tout
est-ce
un parcours
donne,
du
est-ce qu'on le donne, mais si on le donne à tort et à travers, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout si...
Alors, le souci que tu as, c'est que quand même, comme c'est une amphétamine, tu vas te retrouver avec des gens qui vont vouloir s'en servir pour passer des examens sans dormir.
Alors, est-ce que doper, ça vient de dopamine?
Ah, c'est une bonne question. Interesting.
Je sais pas.
Vous nous direz. Non, mais c'est possible. Je me suis jamais posé la question comme ça. Peut-être. Mais en tous les cas, moi, je viens d'un temps où les amphétamines étaient presque en vente libre, puisqu'il y avait un truc qui se vendait qui s'appelait l'ordinateur. Et c'était plus ou moins des amphètes.
On passait des examens.
Passait les examens, et c'était comme ça. Il y avait le guronzan, bien sûr. Et il y avait ce truc ordinateur. Et j'ai une copine qui en avait pris quand on passait le CAPA. Et elle avait tellement, tellement, tellement maigri, parce que ça coupe complètement l'appétit, qu'à la fin, elle était trop faible pour passer le grand oral. Donc, ne faites pas ça. Et donc le médicament contre le, enfin la Ritaline, le Concerta, l'Adderol surtout, sont utilisés détournés quelquefois pour maigrir. Puisque c'est des emphètes. Encore une fois, dans les années 60, on donnait des emphètes en veux-tu, en voilà, à toutes les femmes pour qu'elles fassent le moindre régime, et ça gênait personne.
La vitamine, c'était avec ça que se dopaient les cyclistes. C'était, tu sais, les types du Tour de France, ils étaient bourrés d'amphétamines.
Bah, je crois que si tu reviens à l'époque des Kennedy, ils étaient plus ou moins tous les deux bourrés. Il y a eu des révélations.
Il avait des grandes douleurs dans le dos.
Il avait des grandes douleurs dans le dos, et donc il avait des sortes de cocktails que lui avait fait son médecin particulier, qui étaient bourrés d'amphétamines et qui permettaient aussi à Jackie Kennedy de rester aussi mince parce que elle mangeait rien, parce que les amphétamines te coupent complètement l'appétit.
Je devrais en prendre.
Et donc ce que je veux dire à propos de ce médicament, c'est que ce qu'il faut voir, c'est qu'un enfant ou un adulte potentiellement qui est TDA et qui a des souffrances parallèles, vous avez pu mettre en place, toi je pense que c'est ce qui s'est passé, tu as mis en place des phénomènes cognitifs ou de mindfulness ou comportementaux qui t'ont permis de contourner quelque part ces difficultés. Mais pour beaucoup, et surtout dans le jeune âge, c'est très difficile de trouver ces protocoles tout seul, surtout sans avoir compris véritablement pourquoi on était différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, personnellement, pour avoir pris de la Ritaline pendant une période, j'ai trouvé ça... je suis pas payée par des labos, hein, mais j'ai trouvé ça absolument incroyable de enfin pouvoir être à hauteur de mes capacités sans avoir d'entrave, c'est-à-dire sans me retrouver en passant un examen avec une déperdition de ma focalisation parce qu'il y avait un débile qui ouvrait une boîte de cassoulet à côté, c'est arrivé, ou qui se grattait les pieds, ou qui faisait tomber son livre, et ainsi de suite. Et il y a un bouquin de TDA qui est pas mal, qui s'appelle « Mon cerveau a encore besoin de lunettes ». Et je trouve que ça résume assez bien l'équation, c'est qu'il n'y a pas de honte à avoir des lunettes, et il n'y a pas de honte à ce que son cerveau ait des lunettes. Et quelquefois, si votre cerveau a besoin de lunettes, eh bien, mettez-en. Je ne vois pas où est le souci dans le fait de mettre des lunettes.
Mais, oui, encore faut-il savoir que... parce que, évidemment, si tu es comme ça, et que tu as des manquements, etc., tu te dis, c'est pas normal, mais bon, moi je suis comme ça, qu'est-ce que je peux y faire? Et c'est un des trucs auxquels il faut bien se rendre compte, c'est que on a des loupés hein, dans la nature, ça arrive. Et qu'en effet, si vous êtes myope, vous mettez des lunettes, mais si vous avez quelque chose qui est un peu pété dans le cerveau, vous le savez pas, parce que vous pouvez pas le savoir, que vous êtes pas comme les autres. Et donc, c'est à l'autre de voir la façon dont vous agissez, de dire, il faut que tu mettes des lunettes. Donc, pour qu'on s'occupe de toi, il faut d'abord que les gens aient conscience que ça existe. C'est ça la difficulté.
Alors, je vais te dire quelque chose. Je pense que les TDA, les TDHA, souvent sont hypersensibles et vibrent plus haut. Mmh. On a une hauteur de vibration qui fait que souvent aussi on a un rapport aux animaux beaucoup plus grand, et les animaux le perçoivent d'ailleurs. Moi, les animaux viennent toujours vers moi, les petits bébés, ainsi de suite. Je crâne pas, je dis juste ce que je constate. Et j'ai aussi, de sorte qu'en étant attentive et en me connaissant maintenant, un potentiel pour reconnaître les autres TDA. Je crois que j'ai diagnostiqué au moins 3 enfants de mes copines en leur disant, tu sais, moi si j'étais toi, je l'emmènerais voir un médecin, et ça s'est avéré vrai. Évidemment, je n'ai pas posé le diagnostic tout seul, mais parce que l'enfant vibrait à une hauteur que je reconnaissais. Et je faisais des cours de catéchisme, et il y avait 2 gamins, c'était évident aussi pour moi, et ça s'est révélé plus tard. Parce que c'est comme, t'as un de tes copains qui est comme ça, qui voit la couleur des gens. Il veut dire, celui-là, il est orange. Ah, celui-là, c'est complètement violet. Bah, quelquefois, moi, les TDA, je les vois parce qu'ils sont sur la même fréquence comme la mienne. Je les reconnais. Et c'est très bizarre comme les TDA se retrouvent. C'est-à-dire, j'ai une très bonne amie, son mari Grégoire, je ne savais pas qu'il était TDA. Des années après, on s'est rendu compte qu'il était. Et ben, j'ai toujours vibré avec Grégoire. On était sur la même fréquence. C'est très drôle.
Tout à fait.
Et il y a des gens comme ça qui ont cette...
Le but de cette émission, c'est de dire, un, ça existe, deux, ça se diagnostique, et encore mieux pour un truc qui dépend du cerveau, ça se soigne. Parce qu'il y a des tas de trucs dans le cerveau qu'on ne soigne pas aujourd'hui. Enfin, on n'a pas encore les connaissances pour le soigner.
Et puis encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être un énorme... Si tu apprends à...
Ça peut être un avantage.
Ça peut être un immense avantage. Il y a un site en France qui s'appelle Hyper Super, qui est un site sur les TDR. Et justement, ça peut être quelque part aussi un super pouvoir. Parce que moi, par exemple, j'avais des capacités incroyables en littérature pour comprendre la finesse d'un poème. Ou ainsi de suite, parce que ce que je ressentais était incroyable au travers d'un poème. Et je n'ai jamais pu expliquer à mes filles, par exemple, leur transférer véritablement cette sensibilité. Parce que moi, je ressens tout ça, véritablement. Ou un tableau, je vais ressentir des choses et je me dis, tiens, c'est bizarre. Les autres ne le sentent pas pareil, alors que je pensais que c'était universel. Donc, je pense que ça peut être une force aussi.
Si tu veux être critique d'art, ce n'est pas une mauvaise idée. Quoi.
tu peux aussi apprendre beaucoup en thérapie comportementale ou thérapie cognitive. Parce que surtout chez le jeune enfant, c'est vraiment nécessaire, et ça je voudrais mettre l'emphase dessus en tant que maman, d'avoir des rituels extrêmement serrés avec l'enfant. L'enfant TDA va avoir besoin de repères, véritablement, ne laissez pas flotter. Ayez au contraire presque une rigidité, parce que l'enfant TDA va être anxieux, et il va parce que n'importe quel bruit, n'importe quelle chose l'irrite. Donc vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose d'extrêmement rigoureux. Et c'est à vous de mettre ce...
Alors il sera plus à l'aide peut-être dans un pensionnat.
Parce que
si c'est bien tenu, parce que ça a été le cas pour mon petit-neveu Henri, là.
Oui, mais il était plus grand. Moi, je pense qu'un pensionnat avant 12-13 ans, c'est dur quand même.
C'est l'âge où il avait, quand il a été dans son collège au Canada, là, il a été heureux comme tout, et ça marchait, enfin, le tonnerre de Dieu. Et parce que justement, il avait ça aussi. Donc,
c'est important d'avoir des protocoles. Des protocoles où l'enfant peut se reconnaître, avec des protocoles pour le coucher, avec des protocoles... Et ça, ça peut être aussi le côté un peu autiste du TDA qui a besoin d'une régularité. Et c'est drôle parce que c'est un peu le côté bicéphale du TDA, c'est-à-dire il veut une régularité et en même temps, rien ne l'ennuie plus que ça. Parce qu'il a besoin de découvertes, ainsi de suite. Mais il faut un rituel de coucher à 8 heures, il faut qu'il dîne à 7 heures, il faut que, voilà, et qu'il ait son bain avant. C'est un peu schizophrène de sa part, mais il est comme ça.
C'est-à-dire qu'il veut une régularité pour pouvoir en sortir.
Pour pouvoir en sortir. Et pareil, très souvent, le problème du théâtre, ça va être sa capacité à rentrer en procrastination, la dopamine n'étant pas là. La dopamine n'est pas là, ça ne lui donne pas envie de faire la tâche. Donc il faut trouver des choses pour contourner. Alors tu peux avoir des gratifications immédiates en disant, ok, je fais ces 2 pages de recherche, ensuite j'aurai un carré de chocolat. Bon, ça marche bien avec certains.
Je vais faire un travail administratif et ensuite je vais regarder TikTok.
Voilà, tu te mets des trucs comme ça. Et c'est très important parce que sinon, on ne trouve pas la dopamine. Autre chose que tu peux faire dans les thérapies comportementales, c'est ce qu'on appelle le body doubling. C'est travailler avec quelqu'un d'autre. L'autre va t'entraîner. Et donc, tu te mets à côté de quelqu'un, tu fais pareil que lui. Et ça, au travers du temps, ça marche pas mal. Mais bon, il faut trouver son partenaire Et aussi, parce que ça, c'est un vrai problème du TDA et qui est souvent mal diagnostiqué à cause de ça, l'anxiété. Le TDA va ressentir une immense anxiété parce que évidemment, il a plein de stimuli qui sont beaucoup plus grands pour lui que pour les autres.
Donc, parce qu'il n'a pas de dopamine, donc ça, c'est comme s'il roulait sans...
Sans jantes. Enfin, il roule sur les jantes,
il n'a pas d'amortisseur. Quoi.
Voilà. Donc, et comme il a cette hypersensibilité, en plus, il va être surstimulé. C'est-à-dire, encore une fois, tu as l'étiquette qui gratte, tu as un mec qui fait du bruit au fond. Tout ça, c'est une surstimulation. Et alors, souvent, les gens disent, mais on arrive dans un monde où tout le monde, vous dites TDA et ceci. Mais oui, mais on est dans un monde où on est surstimulé partout. Il y a de la lumière partout, il y a du bruit partout. Vous êtes tous dans la rue en train de hurler sur les téléphones. Évidemment, on est tous surstimulés. Pour quelqu'un qui est sensible, vous êtes en surstimulation absolument constante. On a de la lumière, on a des couleurs, on a des odeurs absolument partout. On vit dans des domaines urbains où on est beaucoup plus serrés les uns à côté des autres.
C'est ce que disait Bernanos. Il disait « Le monde moderne a un projet, c'est d'empêcher les gens de réfléchir sur eux-mêmes. » Tu vois, avec tous ces stimulés, finalement, tu ne te prends jamais le temps de t'arrêter.
Alors, c'est pour ça que aussi pour un TDA, c'est important d'avoir potentiellement recours à ce qu'on appelle le mindfulness, c'est-à-dire de prendre le temps de dire « Voilà, alors, où est-ce que je suis ? Je suis dans cette pièce, c'est bien, j'ai les 2 pieds, voilà, il y a qui dans cette pièce ?» Et tu passes 5 minutes de mindfulness, c'est-à-dire de prendre le temps de dire je suis où, je fais quoi, avec qui, et de ne pas être dans une,
un mouvement perpétuel d'agitation.
Et ça, c'est le plein sentiment de l'instant présent et de remplir à ce moment-là. Mais c'est ce que, quelque part, la prière faisait autrefois, je pense. Et tu peux prier
aussi. Ou la méditation.
Ou la méditation, c'est-à-dire prendre un temps plein de lâcher prise et de réfléchir à l'instant dans un endroit où tu peux prendre le temps de te remplir de toi-même, justement.
Voilà. C'est important, ça.
Voilà. Donc c'était un petit peu le tour que je voulais faire aujourd'hui sur le
c'est
TDAH.
C'est beaucoup plus important que l'Iran.
Non, mais l'Iran, vous avez fait une formidable émission avec Xavier Refer que je vous invite à aller voir. De temps en temps, nous avons à cœur de faire des émissions sur des sujets sociologiques. Et je pense que ces sujets qui deviennent de société parce que on en parle beaucoup, parce qu'ils touchent aussi nos enfants dans la mesure où de plus en plus d'enfants sont diagnostiqués. Encore une fois, je pense parce que les capacités de diagnostic sont aussi plus grandes, donc on en diagnostique plus parce que moins passent au travers des mailles du filet. Et aussi, moi, quand les gens me disent toujours « Ah, mais de mon temps, il n'y avait pas des gens autistes ou il n'y avait pas des gens... » De mon temps, il y avait aussi des gens qui connaissaient par cœur les horaires de train pour le Paris-Cahors, avec tous les changements. Et il y avait aussi pas mal de gens qui faisaient des collections de tire-bouchons.
J'en ai connu un, oui, qui était voilà. Très brillant.
Donc, moi, quand on me dit que ça n'existait pas à mon époque, je me permets de douter, c'est juste
c'est
que...
aussi parce que les vies à notre... Enfin, je suis âgé, mais... Dans la province, dans les années 60, il ne se passait pas grand-chose.
Il ne se passait pas grand-chose. Donc,
tu n'étais pas stimulé, quoi.
Tu étais un TDA ou tu étais un autiste léger. Tu pouvais, même si tu étais non tactile, tu pouvais complètement fonctionner, puisque tu trouvais un boulot de bibliothécaire, à classer des fiches au sous-sol de Bercy ou je sais pas. Tu n'étais pas surstimulé. Tu vivais des vies assez répétitives, normées, avec des toutes petites tâches très, très microscopiques. Donc, à partir du moment où tu n'as pas... De nos jours, on te demande rien qu'interagir socialement, sur les réseaux. Enfin, on est beaucoup plus stimulé absolument tout le temps. Oui, alors qu'on ne l'était pas. Enfin, je veux dire, à mon avis...
Il y avait même parfois des périodes d'ennui. Où on se mettait à lire. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à foutre. Je me souviens, quand j'étais petit, quand tu étais dans le fin fond du Gard ou en Normandie, ou etc., y avait quand même le samedi et le dimanche ou des trucs comme ça, c'était un peu long. Donc tu allais voir ce qui traînait, par exemple le Larousse médical, il y avait des trucs passionnants dedans, des maladies incroyables. C'était passionnant, puis il y avait des images, c'était vachement bien.
Mais moi, c'est comme ça que je m'en suis tirée, c'est parce que je suis d'avant les réseaux sociaux, puisque je suis née en 70, et que c'est par la lecture... Et en étant, quand on est parti à Londres, je lisais tout ce qu'il y avait pendant une période et ça m'a sorti probablement de ma dysorthographie parce que, en fait, j'ai appris les mots par cœur à force de les avoir lus parce que je comprenais rien à la façon dont il fallait écrire. Je me souviens de, je te le disais hier, mais de scènes où tu essaies de m'apprendre les mots comme printemps, PRIN, TEMPS, et de ma vie, je me disais, je ne comprends rien, ces histoires de consonnes, de machin, pourquoi il faut MT avant. Je comprenais rien. Et à force de les lire, je les ai appris par cœur, mais encore aujourd'hui, je pense qu'il y a la lecture m'a permis de contourner ça, et grâce au ciel, parce que apprendre à écrire et à apprendre
y en a un autre qui doit être comme ça, c'est le dernier fils d'Edouard, mon dernier fils là, qui a 3 ou 4 ans. Ben lui, imagine-toi que ce qui le passionne, c'est de faire de la calligraphie. C'est-à-dire que, tu sais, il prend des lettres, mais il les fait très bien, hein, il fait de la calligraphie, et maintenant, il a appris tout l'alphabet, et il se met à apprendre l'alphabet russe.
Oui, mais ça, tu vois, encore une fois, c'est un signe de l'immense pouvoir de concentration du TDA, quand on lui donne une tâche dans laquelle...
Il a trouvé l'alphabet russe tout seul, quoi. Je ne sais pas comment il a fait.
Et
c'est très beau ce qu'il fait, hein, c'est très bien.
Oui, parce qu'il est minutieux et que encore une fois, le TDA, quand il s'intéresse à une chose, va aller au bout. Et je pense que c'est important de comprendre très tôt l'enfant, dès qu'il commence... Ah, autre chose dont j'ai oublié de parler, les colères. L'enfant surstimulé, va potentiellement avoir, si vous avez un enfant qui vous fait des crises de colère quand il revient de l'école, c'est-à-dire tout le monde va vous dire « Ah, il est très gentil à l'extérieur, c'est un amour », et quand il rentre à la maison, part dans des crises de colère, c'est assez typique du TDA parce qu'il a surcompensé toute la journée, la maison est un sas de sécurité et c'est là où il dégaze. Et la crise de colère, c'est juste un trop-plein émotionnel de sa journée, où il a contenu, et c'est vrai aussi de l'adulte, qui la plupart du temps a contenu tout un tas d'émotions, parce qu'encore une fois, les petites étiquettes qui grattent et compagnie, et la colère va sortir comme une sorte de sas de décompression, et la plupart du temps, en plus, on va en être très marri, parce qu'on n'a pas du tout anticipé à être en colère, mais c'est sorti parce que c'est un trop-plein de la journée.
C'est la chanson de celui-là qui s'appelait « Mon vieux, le papa qui rentre à la maison, qui n'en pouvait plus et qui faisait des colères à la maison. » C'était une très jolie chanson d'ailleurs.
C'était pas Nicolas Perrac ?
Non, c'était un type qui avait une grosse voix, une voix basse. « Mon vieux ».
Oui, au nord c'était Les Corons.
Ah non, c'est pas au nord, c'était Les Corons.
Non, mais c'est le même chanteur qu'au nord, ouais, c'était Pierre Bachelet.
Non, c'était pas Pierre Bachelet, c'était... Enfin, on le retrouve à « Mon vieux », c'était...
Guichard. Ah oui, c'est peut-être Daniel Guichard
qui chantait « Mon vieux ». Ah, c'est une chanson que j'adorais.
Oui, il y a un moment où il dit « Je faisais mes devoirs à côté de lui ».
Ça, c'était Les Corons. Avec les yeux bleus, c'était Les Corons, ça, c'était Les Corons. Bon, voyons. Donc, grosso modo, c'est pas un truc habituel, mais en même temps, si vous voulez, c'est un truc de la vie de tous les jours. Donc, ben, nous, on vous dit ce qu'on a.
Voilà, moi, ce que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est d'abord, ben, pour les mamans qui pourraient écouter et les papas, c'est d'être en amont sur ces sujets-là et de regarder l'enfant et de diagnostiquer et surtout de ne pas vous dire que la prise de médicaments de Ritaline serait absolument horrible. Moi, je transmets juste, et si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez me contacter. Je transmets juste mon expérience, la mienne et celle de ma fille, c'est que c'est véritablement une aide. Ne vous privez pas d'insuline quand vous êtes diabétique et ne vous privez pas de Ritaline. Si votre cerveau a besoin de lunettes, c'est vraiment salvateur. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de généralisations sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ça n'est pas une maladie invalidante, ça n'est pas de la folie, ce n'est pas de la schizophrénie, ce n'est pas de la bipolarité, qui elles-mêmes ne sont absolument pas non plus sales. C'est une neurodivergence, c'est une façon différente de fonctionner. Et encore une fois, je pense que ça peut être une force. Surtout que beaucoup de TDA sont souvent HPI, donc au potentiel intellectuel, et donc au contraire surperforment la plupart du temps les neurotypiques. Donc vive les neurodivergents.
Voilà, vive la différence.
Voilà, bon, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Si vous êtes arrivé là par les moteurs de recherche et que vous êtes resté jusqu'à la fin, merci de nous rejoindre. Et on attend vos commentaires avec passion.
Merci beaucoup.
Au revoir.